Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Florence Ginisti. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une femme qui ne reste pas calfeutrée, ni dans son métier pourtant prenant, ni dans son intérieur, certainement très confortable, mais qui est très engagée dans la vie de la cité, dans la vie publique, dans la vie des idées, elle a des convictions, elle les défend, elle s'intéresse aux autres, à l'avenir de son pays avec sensibilité et intelligence. C'est assez rare à notre époque pour être saluée. Bonjour Florence Ginisti.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Eh bien, c'est un plaisir. Alors, c'est une invitation. Oui, je vous ai quasiment invité chez vous, on y viendra tout à l'heure, parce que nous sommes, et tout le monde le sait, à l'Hostal d'Occitanie, dont vous faites partie du conseil d'administration, donc quelque part, vous êtes reçu un peu chez vous. Alors, revenons au départ, Florence Ginisti. Vous êtes, vous avez fait des études de droit, comme beaucoup, personne n'est parfait. Vous veniez de Montauban, directement, université de Toulouse Capitole, comme on dit maintenant, on ne disait pas ça autrefois. Pourquoi ce choix? Pourquoi le droit? Vous auriez pu
Le droit, en fait, c'était un deuxième choix. En réalité, je voulais faire médecine.
Bon, ah oui, il y en a énormément.
Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, peut-être parce qu'on a intérêt pour les autres, un intérêt à l'époque pour la psychanalyse et la psychiatrie. Donc je m'étais dit, je voulais faire médecine pour être psychiatre. Donc j'ai fait comme beaucoup de mes petits camarades, j'ai fait une année de médecine. Je me suis plantée au concours, donc évidemment, c'était un petit peu désespérant. Et ensuite, ben, comme beaucoup de camarades, je suis allée en droit. Et finalement, de fil en aiguille, je me suis dit que finalement, ça correspondait à ce que je souhaitais, puisque après, donc, je suis devenue avocat. Et
C'est un peu faire de la psychiatrie d'être avocat, non ?
Voilà, et j'ai réalisé que finalement, faire de la psychiatrie, je crois que c'était vraiment pas ça. Mais par contre, le contact humain, la relation humaine, on l'a dans le métier d'avocat. On a accès à des gens d'univers très différents, et c'est ça qui m'a intéressée. Et j'avoue que le côté trop psychiatrique ou trop psychiatrisant, ne me correspondait pas.
Voilà. Études de droit, d'accord, mais pourquoi avocat? On sort d'une faculté de droit, il y a comme une infinité de possibilités qui s'offrent à l'étudiant.
Alors avocat, en fait, c'est par rapport à la rencontre de quelqu'un chez qui j'ai travaillé après, qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Alain Furbury, qui était vraiment un avocat, enfin je sais pas, peut-être vous l'avez connu, qui était un avocat pénaliste.
Oui, il m'arrivait, mais on en reparlera, je sais, en fin d'émission. Moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé, parce que le dimanche soir, nous dînions souvent ensemble, et Alain Furbury avait été inscrit comme avocat, vous savez en quelle année?
Je sais plus.
Je vous la dirai pas, mais c'est l'année où je suis né, donc ça m'impressionnait énormément, parce que moi j'étais un jeune confrère avec Furbury, et je savais qu'il était inscrit l'année où j'étais né, donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours stupéfié, alors qu'il avait une fraîcheur, une verdeur absolument. Enfin, mais on reviendra sur Alain Furbury. Donc vous avez.
Donc c'est une rencontre, parce que je suis allé à l'époque, dans le cadre scolaire, on nous avait amené voir des audiences correctionnelles. D'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant. Par ailleurs, ça se fait plus beaucoup à l'heure actuelle. Donc j'avais assisté à une audience correctionnelle et j'avais vu Alain Furbury plaider. Et je dois dire que le personnage m'avait vraiment fasciné, la manière dont il défendait, etc. Et puis il se trouve par ailleurs qu'il connaissait mon père, enfin donc il y avait quand même quelque chose d'un peu intéressant dans le personnage, et je pense que c'est lui qui m'a donné envie, même si à l'époque je n'osais pas vraiment, parce que c'était un personnage tellement, dans son univers, hein, quand même un peu hors du commun, se dire je vais être avocat, est-ce que je vais être à ce niveau-là? Enfin, il y avait un côté un petit peu,
ça veut dire
peu
que
difficile
vous êtes,
à imaginer.
Vous êtes spécialisé dans le pénal?
J'ai fait du pénal avec lui pendant plusieurs années, et puis je dois dire qu'à l'époque, hein, et c'est encore vrai, peut-être moins maintenant, c'était un métier d'homme. Hein. C'est-à-dire on était moins nombreuses, les femmes. Maintenant, dans la profession, les femmes sont majoritaires. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et le pénal était un métier d'homme avec une clientèle d'hommes, et assez difficile quand même.
Alors, on a eu quelques consoeurs toulousaines
qui
ont émergé de grande qualité, notamment...
Et Marie-Christine Etelin.
Marie-Christine Etelin, ou une des collaboratrices quasiment associées de Simon Cohen, dont le nom échappe sur l'instant. Vous avez regretté par la suite votre choix ou non? Vous êtes pleinement réalisé dans ce métier?
Non, d'être avocat, le choix d'être avocat? Non, pas du tout. Oh, non, au contraire, je pense que ça correspondait à, finalement, au fond, une envie que je n'osais pas trop exprimer, mais que j'ai fini par exprimer. Je pense que c'est un métier qui est... C'est ce que j'ai appris, d'ailleurs, avec Furbeau, c'est un métier de liberté, en fait, qui donne, je pense, une grande liberté intellectuelle, qui permet d'avoir des contacts avec des gens extrêmement différents, et puis qui donne une possibilité de champ d'activité très large, hein, surtout maintenant, quoi.
Voilà. Est-ce que cette liberté, effectivement, n'est pas un peu bridée par les aspects économiques du métier? Il faut bien dire quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de dossiers aussi, mais quand même, c'est un peu une course à l'échalote aux honoraires.
Oui, ça c'est l'aspect, je dirais, le plus négatif de la
profession.
Voilà,
le plus négatif, parce qu'il faut quand même savoir se valoriser, il faut faire accepter une rémunération au client, puis après il faut la recouvrer. Et ça prend beaucoup de temps.
Ça, c'est l'aspect négatif de la profession d'avocat. Enfin, c'est-à-dire que c'est itinérant, hein, le fait que c'est une profession indépendante. Donc, effectivement, on a ce genre de difficultés à régler. Après, ce qui devient de plus en plus problématique aussi, c'est alors, l'inflation législative dans laquelle on est dans ce pays, qui est absolument effrayante, hein, qui fait que les textes succèdent les uns aux autres avec des réformes qui sont totalement absurdes, qui prétendent... d'une certaine manière, rendre la justice plus accessible, alors qu'en réalité, on la complexifie. Enfin, je pense que c'est plus cet aspect-là, et bon, l'aspect économique, hein, qui pose problème. Et moi, je parlais de l'essence du métier, en fait, qui je trouve, reste quelque chose de vraiment très intéressant, qui permet une liberté, une liberté intellectuelle, une liberté, effectivement, de travail, quoi, malgré ses contingences.
C'est pas le premier, il y en a eu d'autres avant lui, mais vous pensez qu'un avocat ministre de la Justice, c'est une bonne chose? On peut citer le cas de Robert Badinter qui fait un grand ministre.
Je suis pas certaine, parce que justement à cause de cette liberté intellectuelle, et je vois, bon, on pensait à Dupond-Moretti, qui d'ailleurs, ça va me ramener encore à Furbury, on va peut-être pas parler que de lui pendant toute l'émission, mais qui était, enfin, comment il s'appelle, Dupond-Moretti. Furbury a été le mentor de Dupond-Moretti, ce qui est assez marrant à voir, mais je pense que cet homme, en tant qu'avocat, avait une grande liberté de parole. Je crois que le fait d'être ministre, c'est complètement différent. Il y a des suggestions qui ne sont pas les mêmes, et on voit bien les difficultés auxquelles il est confronté, c'est-à-dire des contradictions d'intérêts, des conflits d'intérêts, qui amènent à des situations qui sont un peu...
Il a un peu cherché, difficile. Peut-être, quand même.
Oui, je pense qu'il y a eu... Alors, Badinter... avait une personnalité peut-être différente. Enfin, c'est vrai qu'il a été un grand ministre, hein, Badinter.
On sait ce qu'il a fait voter déjà.
L'abolition de la peine de mort. Et puis, je pense qu'il avait peut-être plus de recul ou de hauteur par rapport à
Dupond-Moretti, qui fait parfois un peu gros sanglier quand même.
Oui, il a un côté qui n'est pas très subtil tout le temps. Mais en même temps, bon, c'est un personnage, hein, c'est quelqu'un... Enfin, moi, j'avais eu l'occasion, puisqu'il était très ami avec Furbeau, j'avais eu l'occasion de le rencontrer, mais il démarrait. Hein. Bon, c'était déjà un personnage quand il était jeune. Hein, donc c'est
oui,
quelqu'un
ça s'est
qui...
exacerbé, j'ai eu l'occasion de faire quelques déjeuners avec lui.
Oui, c'est-à-dire que maintenant, il y a le côté de l'ego. Hein,
oui, et après, les pénalistes sont quand même des gens un peu à part dans le milieu du droit, parce qu'ils ont... Et ce sont la plupart du temps des gens de talent, mais ils exercent beaucoup dans le paraître, dans la plaidoirie, l'art oratoire. C'est quand même quelque chose qui est prédominant par rapport à la technique pure juridique.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est bon, il y a le côté fait de manche. Puis c'est vrai qu'il plaide, bon, c'est sûr qu'il plaide beaucoup aux assises, les assises particulières, hein, c'est une sorte d'arène, hein, c'est... on refait un procès qui a été fait par un juge d'instruction, on le refait à l'audience, il y a toute une théâtralité. Et c'est vrai que ces avocats-là, qui font beaucoup de pénal, s'adaptent à cette théâtralité-là. Ce qui fait que quand on est... Effectivement, c'est très différent de...
Oui, ils sont toujours un peu en représentation.
Oui, et ils finissent par, je pense, au bout d'un moment, avoir un ego tel qu'ils ne sont plus sur le même niveau que les autres personnes, oui.
Vous éprouvez toujours du plaisir dans ce métier ?
Oui, je... enfin, encore.
C'est pas
oui.
Un oui massif quand même.
Non,
un petit
parce
oui,
que je
ça,
dois
hein.
dire que c'est ces évolutions là auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, hein, qui sont absolument invraisemblables. Hein. Je pense que, enfin, je ne sais pas si ça se passe pareil dans d'autres pays, mais on a un vrai problème avec la juridiciarisation de la vie publique et cette succession de textes qui finissent par ne donner plus de sens à ce qu'on fait. Parce que les grandes lois, moi, il se trouve que je fais en partie du droit de la famille. Bon, il y a eu des grandes réformes du droit de la famille qui correspondaient à des évolutions sociétales. Ce qui est normal, le droit, il suit l'évolution de la société, il essaie de se mettre en phase. Mais avec des grandes lois qui étaient, bon, tous les 15 ans, 20 ans, etc. Là, maintenant, c'est incessant. Même dans un domaine comme celui-là, c'est incessant. Avec des choses qui se chevauchent, qui font que finalement, on perd du sens et parfois de l'envie, oui.
Peut-être que chaque ministre a envie de laisser son nom à une loi. Donc, on a mille feuilles aujourd'hui de textes qui parfois se contredisent et qui deviennent très rapidement inapplicables.
Je pense que c'est une maladie française, ça. C'est-à-dire que je crois que les gouvernants se servent du droit, finalement, comme un moyen pour faire de la politique, alors que ça devrait être le contraire. C'est-à-dire, comme ils ne savent pas gérer un certain nombre de questions, et on le voit, l'histoire d'une loi, un fait divers, finalement, tout le monde l'a fait, hein, que ce soit la droite ou la gauche, ça devient obsessionnel. Donc, pour répondre à des problématiques de l'instant, au lieu d'expliquer aux gens ce qui se passe, ou d'avoir une vraie politique pour éviter les problèmes qui apparaissent, on fait un texte de loi. Évidemment, c'est surtout alors la pénalisation, alors là de la vie publique, elle est absolument effrayante. C'est-à-dire, il y a des sanctions dans toutes les activités de la vie publique ou civile, ce qui devient un problème pour tous ceux qui travaillent, enfin quel que soit le domaine d'ailleurs.
Alors, si cette vie professionnelle très prenante, mais vous la doublez d'une vie publique, puisque vous avez choisi d'aller vers la politique.
Oui, je vais vers...
Enfin, si, on peut le dire. Alors, oui. On va dire après vers où le cœur vous a porté, mais pourquoi la politique particulièrement?
Alors,
je sais bien que les avocats, il y a un temps où il y en avait beaucoup à l'Assemblée et qu'ils étaient très portés là-dessus, mais c'était peut-être dans des temps un peu plus reculés. Donc, vous êtes une jeune avocate...
Non, enfin, vous êtes gentil.
Oui, je le sais, tout le monde me le dit.
Mais non, enfin, la politique, moi, je peux pas dire que je m'intéresse à la politique. Je n'ai jamais été élue, donc j'ai jamais eu de mandat. C'est vrai que j'ai toujours été intéressée par la politique et c'est vrai que j'ai eu envie de m'engager un peu plus pendant le mandat précédent, là, celui de François Hollande.
Alors disons-le, bon, je crois que vous êtes adhérente d'un parti.
Alors, je suis adhérente d'un parti politique, mais c'est récent, ça.
Oui.
C'est récent.
Il était temps que vous y alliez, d'ailleurs. Enfin...
je ne sais pas si j'ai des temps. J'y vais au moment où il est le plus mal. Donc,
oui, on va le dire, c'est le Parti Socialiste, puisque
voilà.
Vous ne faites pas mystère de votre
non,
adhésion.
Pas
il n'y a pas de raison,
pas,
d'ailleurs.
Pas caché,
pourquoi vous avez choisi ce parti-là plutôt que... Bon, ce n'est pas les partis qui manquent. Enfin, ils sont tous très mal en point, mais...
Bah, parce que c'est une fidélité politique, hein. J'avoue que j'ai toujours voté socialiste, alors même que je viens d'une famille de droite catholique, hein, donc je pense que là je suis en opposition par rapport à ça, mais non, j'ai toujours voté socialiste, ça m'a toujours intéressé, mais c'est vrai que peut-être par liberté intellectuelle, j'ai jamais eu envie d'adhérer à un parti parce que ça suppose un certain nombre de contraintes.
Ce que vous avez fini par faire. Ben.
Voilà, alors je l'ai fait parce que c'est un peu l'aboutissement d'un processus antérieur où j'ai adhéré à un club qui s'appelle Club Démocratie 2012, là en 2013. Qui n'est pas un mouvement politique, qui est un club de réflexion, et du fil en aiguille, bon, c'est vrai, c'est un engagement qui en amène un autre, et puis le Parti Socialiste est dans un tel état, je me suis dit peut-être que je pourrais apporter quelque chose, on ne peut pas me faire le reproche d'aller à la soupe, comme on dit, parce que
c'est quasiment une œuvre que vous faites.
Oui, mais c'est mon côté Don Quichotte, hein, un côté très Don Quichotte, c'est le métier qui revient même là-dessus.
Alors vous avez dit que vous avez toujours voté à gauche, le PS est à gauche.
Ah, pour moi, il est à gauche, oui. Enfin, il a toujours été. Moi, je pense que c'est... Alors après, il y a multiples gauches, hein, mais c'est une gauche responsable. C'est la gauche social-démocrate, même si Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il a fallu attendre le mandat de Hollande pour qu'on parle du mot social-démocratie au Parti socialiste français, parce que c'était une espèce de tabou, alors que dans les autres partis européens, notamment le SPD allemand, ça faisait longtemps qu'on parlait de social-démocratie. Donc moi, je me situe dans cette veine-là. Hein. Je suis pas...
Vous n'avez pas le couteau entre les dents, autrement dit.
Non. Bon, j'ai pu avoir ça peut-être quand j'étais jeune, mais là, non, je pense que je suis pour une gauche de gouvernement responsable qui fait, qui agit.
Et vous considérez que le mandat de M. Hollande, j'ai eu le plaisir d'avoir ce micro aussi en son temps, vous considérez que c'est un mandat réussi ?
Alors, je le crois, enfin, à mon sens, c'est un réussi sur le plan de la gestion du pays, des mesures qui ont été prises, du redressement du pays, etc. Après, il y a eu des tas de problèmes liés à des problèmes de communication, des problèmes de positionnement par rapport à l'exercice du pouvoir, qui, à mon avis, étaient bons, mais qui n'ont jamais été verbalisés ni explicités, et donc qui ont entraîné beaucoup de critiques, très exacerbées d'ailleurs.
Comment se fait-il que si ce mandat était aussi satisfaisant que vous le dites, peut-être, hein, c'est pas, mon propos n'est pas d'en juger, comment se fait-il que M. Hollande n'ait pas été candidat à un deuxième mandat ? Parce que le Parti Socialiste, très curieusement, a dit on va faire une primaire interne, alors oui. Qu'ils avaient déjà un homme qui était de qualité, ça personne ne peut le nier, qui était aux manettes, et on va le mettre en concurrence avec des troisième ou quatrième couteaux qui... voulait se montrer, qui voulait exister, et qui se disait que peut-être comme ça, ils auraient un poste de ministre en s'étant un peu engagé. C'est inexplicable qu'un parti se tire une balle dans le pied comme ça, de façon aussi grossière.
Bah, c'est bien l'origine du problème du fait qu'il ne s'est pas représenté. Alors après, il lui appartenait peut-être de ne pas accepter d'aller dans une primaire qui visiblement est une primaire pour éliminer. En fait, le but de cette primaire était d'empêcher finalement Hollande de se présenter. Donc finalement, ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Enfin, bon, je pense que ce quinquennat, de ce point de vue-là, il y a eu des tas de problèmes.
Donc ça veut dire que ce Parti Socialiste est pervers quand même, s'il flingue. Un candidat putatif que vous nous dites être de qualité, on a bien accepté ce jugement, pour le remplacer par un clampin que personne ne connaissait et qui à peine fait 6%, c'est quand même un peu léger tout ça, non ?
Bah, ça
pour un parti de gouvernement.
Ça démontre qu'il y avait quelques soucis. La suite l'a montré qu'effectivement, il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Enfin, c'est-à-dire que ce parti était... au bout de quelque chose, au bout d'une histoire, à mon sens, n'avait pas réglé des conflits internes, et notamment ce positionnement. Parce que moi, je trouve très paradoxal, par exemple, qu'on reproche bon, le côté de soi-disant droitisation de la gauche au pouvoir en 2012, alors même qu'on se réjouit de l'accession de Olaf Scholz en qualité de chancelier, donc issu du SPD en Allemagne, lequel SPD a quand même gouverné en coalition avec Merkel à plusieurs reprises. Donc le même SPD, le même Parti social-démocrate est encensé en Allemagne, n'est pas considéré comme un parti de droite, mais quand le Parti socialiste est au gouvernement en France, il est considéré comme étant de droite. Enfin, il y a quelque chose parfois qui... Voilà, il y a beaucoup d'incohérences, oui, et je pense que... Le Parti socialiste n'a pas réglé ces genres de problématiques.
Florent Ginesti, les Allemands, c'est une chose, les Français, ça en est une autre.
Je ne suis pas sûr qu'on soit forcément si différents. Je pense qu'on aurait intérêt à s'inspirer davantage de leur fonctionnement, notamment institutionnel. Je pense que ça nous amènerait peut-être des éléments beaucoup plus positifs dans notre rapport au pouvoir, notamment.
Et donc, cette dégringolade dans les votations, comme diraient nos amis suisses, ou dans les sondages du Parti socialiste, ne vous a pas empêché d'y adhérer. Vous avez dit, non, j'y vais.
Oui.
Bon, ils sont moribonds, ils font n'importe quoi, il n'y a que des bêtises, mais j'y vais. Alors, peut-être que vous espériez que votre arrivée contribuerait, celle d'autres hein, qui sont arrivés
bon,
au même moment que vous, contribuerait à régénérer un peu.
J'en suis pas à me prendre pour ce que je ne suis pas. Non, bah, j'avais juste envie d'amener une pierre quelque part.
Mais il y avait déjà assez de pierres dans le jardin
oui,
socialiste.
Voilà, hein. Essayer de faire quelque chose, quoi, d'amener bon, peut-être une autre vision des choses. Voilà, je trouve que ce parti, c'est quand même toute une histoire, c'est pas négligeable, on peut pas accepter que cette partie-là de la gauche disparaisse, quoi. Bon, alors après, Quel va être l'avenir, j'en suis incapable de dire ce qui va se passer, mais voilà, c'était ma démarche. Après, je ne dis pas que je vais y rester éternellement, j'en sais rien. Ce stade, j'y suis. Voilà.
Peut-être que ce sera le parti qui vous quittera.
C'est possible.
Qui vous quittera avant. Florent Ginesti, nous faisons une première pause musicale, et celle-là, c'est la vôtre. Elle était à votre choix. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire écouter et pourquoi vous avez fait
Alors,
ce choix?
Alors, c'est Clara Luciani. La chanson là, La Grenade, ben, j'aime beaucoup cette chanteuse, bon, qui est une chanteuse qui est jeune. Hein, je trouve qu'elle a, surtout dans cette chanson, bon, c'est une chanson assez féministe, mais c'est une vision féministe positive, je dirais. C'est-à-dire, on n'est pas dans la victimisation, qui est quelque chose que je trouve assez pénible souvent dans une forme de féminisme actuel, c'est-à-dire la femme victime, le statut de victime, enfin ça on pourra en parler même dans le cas de...
Nous y viendrons, ne vous inquiétez pas, nous y viendrons.
Donc c'est pour ça que j'aime cette chanson, parce que je la trouve d'abord, la musique est très sympa, il y a beaucoup d'allant, et c'est l'image d'une femme qui se laisse pas faire, et je trouve que c'est très positif.
Alors nous allons écouter cette chanson positive.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Voilà, nous retrouvons, après Madame Luciani, nous retrouvons notre invitée Florence Ginesti, avocate et membre assez récent, mais du Parti Socialiste, dont elle vient de nous faire une défense, ce qui est normal compte tenu de son métier. Alors vous avez évoqué tout à l'heure un club des 12. Vous m'avez d'ailleurs remis il y a quelque temps un petit livre. Donc c'est un club de réflexion, ce n'est plus un parti.
Non, c'est pas un parti. Alors c'est bon, l'historique, je sais pas si vous le connaissez. Là, on va retomber.
Pas du tout, mais
on va retomber là sur Et la Soupa sur Hollande, c'est en fait à l'origine, c'était un club qui avait été monté en 2012 pour soutenir sa candidature, 2011 pour soutenir sa candidature. C'était la fameuse promotion Voltaire. Donc c'était Jean-Marie Cambacérès, que vous connaissez peut-être, qui est un personnage très intéressant, enfin qui a eu mille vies et qui avait monté ce club avec des, puisqu'il a la même promo Voltaire qu'Hollande, ils avaient monté ça pour soutenir. Bon. Après, il a été élu. Et pendant le quinquennat, ça s'est transformé véritablement en groupe de réflexion. Ils sont élargis, les membres, c'est-à-dire ils sont partis vraiment à la recherche de personnes de la société civile. Et le but, c'était de faire remonter pendant le quinquennat Hollande un certain nombre d'idées, de propositions, de remarques, etc. Il y avait des déjeuners qui étaient organisés à l'Élysée. Et donc voilà, ça a été la production. Et c'était aussi quand même soutenir un petit peu ce qui se faisait. Donc c'était assez intéressant. Et moi, j'ai adhéré à... À ce club, je crois que c'était en 2013.
Alors, vous êtes combien ? Vous êtes 12 ? Non, vous êtes plus nombreux.
Bon, on est quand même un peu plus que 12. Je pense qu'on a à peu près 1000, hein, à peu près 1000 adhérents avec des gens qui sont répartis dans toute la France. Hein. C'est assez intéressant. Et des gens vraiment de la société civile. Alors, il y a des gens qui sont des...
Qu'est-ce que c'est la société civile ?
Des gens qui sont non membres de partis politiques. C'est-à-dire des gens qui sont des associatifs, qui ont des engagements personnels. Ils ne sont pas forcément dans des partis politiques, il y en a d'autres qui sont dans des partis politiques, c'est assez mélangé.
Ça ne me semble pas curieux qu'il faille faire des clubs de réflexion, des think tanks ou autre chose, en dehors des partis et pas dans les partis. On pourrait penser que c'est le parti qui va amener des idées, un programme, qui va avoir une vision. Or aujourd'hui, on constate que les partis politiques, bah, c'est des couleurs d'affiche, hein, globalement. Il n'y a plus d'idées, c'est un organisme, c'est une structure qui ne sert qu'à faire élire un homme, enfin, quand elle y arrive.
Je suis assez d'accord avec vous.
C'est quand même pas normal, ça veut dire qu'on a vidé les partis de ce qui faisait leur intérêt finalement, c'est-à-dire les idées, le débat d'idées, la production d'idées, de projets, pour aller l'amener dans une myriade de clubs plus ou moins sélects, plus ou moins fermés. Et après on s'étonne que les partis soient en pleine décrépitude. Pensez pas que ce mouvement-là y contribue ?
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui contribue à quoi, hein. C'est qui est à l'origine de quoi. Je crois que les partis, malheureusement...
La poule qui a fait l'œuf, oui, l'œuf qui a fait la poule.
C'est toujours l'éternel problème, mais je crois quand même que c'est les partis politiques qui n'offrent plus à des personnes qui veulent s'engager des possibilités. Parce qu'il y a une forme de... Parce que c'est assez figé. Je crois qu'aussi, ça correspond peut-être moins à l'esprit de l'époque. C'est-à-dire, moi, je vois beaucoup de gens qui ont envie de s'engager... mais qui n'ont pas envie forcément de respecter la discipline d'un parti, le côté hiérarchisé, le côté parfois militaire hein, de l'organisation de partis politiques. Donc je crois que déjà ça pose question. Ensuite, bon, bah, y a un manque d'attractivité. Il faut dire que ce que vous dites, vous n'avez pas tort. Quand vous dites que c'est un parti souvent de couleur d'affiche, les uns et les autres, hein, d'ailleurs, pas que le Parti socialiste.
Oui, ça s'étend sur tous les chiquets
politiques.
Parce que
finalement, c'est devenu un endroit où restent adhérents des gens qui vivent du parti en question, de manière directe ou indirecte, parce qu'ils sont embauchés par des collectivités territoriales, etc. Ça, les gens le perçoivent très bien. Ils ne sont pas complètement idiots. Ils voient bien qu'il y a... Bon, il y a plus des intérêts personnels, parfois, que des intérêts collectifs. Et le débat d'idées, il se fait ailleurs. Oui, il se fait ailleurs. Donc, d'où la prolifération de tous ces clubs, qui peuvent aussi régénérer peut-être les partis politiques, à condition que ces partis en question acceptent aussi de s'ouvrir, peut-être avec des formules différentes, que le simple militantisme, peut-être avec des sympathisants, trouver des moyens d'attirer des gens.
Mais est-ce que ça ne veut pas simplement dire, Florent Giesti, que tout simplement, il y en a qui ont verrouillé le parti à leur profit, des équipes, hein, on sait, qui se sont placées et puis qui interdisent aux autres de rentrer. Quoi. Globalement, ils sont sur la rampe de lancement, ils n'ont pas du tout envie qu'on les en déloge.
C'est probablement vrai, souvent, mais c'est-à-dire ça va avoir ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment...
On sait qu'aujourd'hui, si on veut faire de la politique, il faut être dans un parti, ou alors on fait comme M. Macron, on se fait élire et après on crée un parti, ou plutôt un mouvement plus ou moins gazeux.
C'est pour ça que Macron avait connu beaucoup de succès, parce qu'il se trouve que moi je m'étais un petit peu intéressée à la manière dont ça fonctionnait, et c'est vrai qu'il partait de cette idée-là, de mouvement. Alors après, il se trouve qu'après on s'est rendu compte que tout ça était un travail de communicant et qu'en réalité les choses étaient verrouillées, orchestrées, mais pour les gens qui voyaient ce mouvement arriver... C'était très intéressant parce que ça amenait des gens qui ne s'intéressaient pas à politique. C'est-à-dire on disait aux gens, vous montez des comités locaux, vous réfléchissez sur des sujets et ensuite un peu ce qu'on fait nous dans le Club des 12, etc. Et vous faites remonter et finalement le programme du candidat sera basé là-dessus. Donc il y avait beaucoup de liberté. Et c'est ce que recherchent les gens. Les gens, je crois qu'ils en, ils n'ont pas envie forcément de quelque chose de figé. Et c'est, ça a été, à mon avis, une des raisons de l'engouement du parti de Macron. Après, on s'est rendu compte de la manière dont ça fonctionnait réellement. Mais pourquoi il y a eu autant de monde ? C'est parce que ça correspondait à un besoin. C'est-à-dire, dès lors qu'il a lancé son mouvement, je crois que sur Internet, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de personnes qui se sont inscrites.
Et qui se sont fait rouler dans la farine, puisque voilà, finalement, après, on est arrivé au même résultat que les autres,
fait,
et même peut-être un peu en pire.
Mais il avait compris, c'est ça que je pense, c'est l'intelligence de Macron, d'avoir compris que les partis politiques étaient bon, un petit peu en bout de course, et qu'il y avait une aspiration des gens à autre chose. Et ça, il l'a très bien fait. Après qu'il a manipulé les gens, ça, on est d'accord. Mais je veux dire, ça a été son intelligence, ce que les autres n'ont pas compris. C'est pour ça que finalement il a réussi dans son ascension.
Comment se fait-il qu'avec autant de réflexions et donc de matières grises qui se rassemblent, on ait aujourd'hui si peu d'idées ?
Parce que je pense qu'il y a une forme de verrouillage. Je crois qu'il y a moins de relais de transmission entre des intellectuels et les partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pensée un peu figée, de mantra qu'on rabâche, et sans forcément s'intéresser à des intellectuels différents, qui sont des intellectuels qui peuvent être pas forcément qu'à Paris, parce que ça aussi c'est un problème très français de la pensée parisienne, entre guillemets, qui prétend penser l'universel. Des gens qui réfléchissent, il n'y en a pas qu'à Paris. Donc je pense qu'il y a un problème de transmission entre ça, il y a quelque chose qui s'est coupé.
Alors vous êtes membre aussi d'un autre, alors je ne sais pas s'il y a un club de réflexion, mais vous allez nous définir, c'est les engagés d'un certain Laurent Geoffrin, qu'on a connu journaliste. Qu'est-ce que c'est que les engagés ?
Alors les engagés, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a une démarche, des tentatives, hein, mais qui pour l'instant ne prospère pas comme on le souhaiterait, c'est-à-dire de faire ressurgir ou surgir, ça dépend comment on voit le problème, un véritable courant social-démocrate. Et bon, ça part du fait que le Parti socialiste, n'étant pas tellement en capacité de le faire, des mouvements essaient de se constituer sans être hostile au Parti socialiste, mais en essayant de créer, de réfléchir autour de ça, de régénérer cette gauche de gouvernement qui est très mal en point, puisque bon, les dernières élections démontraient que bon, on était à entre guillemets, 6%. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que s'il ne faut pas que ça disparaisse, il faut à un moment donné faire quelque chose. Donc c'est l'initiative de Geoffrin qui est assez intéressante. Hein. D'ailleurs, c'est un parcours étonnant parce qu'il est journaliste, il s'engage dans la politique, donc c'est, on dirait il n'est pas le seul actuellement.
Oui, il semblerait que ce soit tout.
Il a fait des émules peut-être.
Oui, des émules, oui.
Voilà. Voilà. Mais non, c'est pareil, c'est des tentatives de réflexion et d'essayer de fédérer un petit peu tous ces gens qui, de manière éparse, essaient de reconstituer un courant.
Est-ce qu'il ne faudrait pas justement rassembler ce qui est épars ?
Bah, c'était au départ l'idée de Geoffrin. Bon, sauf que bon, c'est un mouvement qui a émergé en fait, après le confinement, là, il y a un peu plus d'un an, donc dans une période quand même pas très simple. Dans une période pendant laquelle les gens, l'engagement, finalement, l'engagement politique, ils n'en veulent plus. Ils ont autre chose en tête. Donc c'est difficile. C'est difficile. Donc bon, ça fonctionne. Il y a des idées qui ont émergé, mais ça n'est pas allé exactement dans le sens qu'on souhaitait. C'est certain, à ce stade.
Alors, autre club auquel vous participez, décidément, vous n'avez plus le temps de faire l'avocate, Florence Ginesti, l'Observatoire Régional de la Parité. Qu'est-ce que c'est que cette bête ?
Alors ça, c'est une association qui a été montée il y a, je crois, en 2000, en fait, qui était à Montpellier, puis qui maintenant est devenue sur Toulouse, qui a vocation à réfléchir en fait sur les questions de parité, notamment en politique, dans le monde du pouvoir et même au-delà, dans l'entreprise, etc. Donc en fait, il y a des études qui sont faites. À ce stade, donc la personne qui est présidente, là, elle s'appelle Geneviève Tapier, ça fait pas mal de temps qu'elle travaille là-dessus, et notamment, elle a quand même permis, avec d'autres, hein, d'initier des lois qui ont été votées dans le quinquennat précédent, notamment sur la parité dans les élections cantonales, c'est-à-dire les binômes. C'était quelque chose d'assez nouveau, ça, donc chaque fois, maintenant,
C'est quelque chose qui fonctionne ? Enfin, j'imagine que c'était pour permettre aux femmes d'avoir une meilleure pénétration de ce milieu politique. Est-ce que c'est pas un peu aberrant d'avoir systématiquement, ou bloquant, d'avoir un homme et une femme ?
Bon, je crois que c'est par... maintenant, c'est devenu une habitude. Hein. Bon, je... c'est... D'ailleurs, votre question n'est pas inintéressante parce que justement, dans le cadre de,
oh, merci de, le remarquer.
De cet observatoire, non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on travaille sur des comparatifs avec l'Allemagne notamment. Et on s'est rendu compte qu'en Allemagne, alors qu'il n'y a pas de texte de loi, il y a finalement une bonne représentation des femmes au Parlement, mais on a essayé de regarder pourquoi, et en fait ce sont les partis politiques, c'est-à-dire les partis politiques eux-mêmes ont une tradition, alors c'est assez curieux parce que l'Allemagne notamment sur l'aide aux femmes qui ont des enfants etc. est assez à moins de facilité que qu'en France, mais par contre sur le plan politique, les partis font émerger davantage des femmes, ce qui fait que finalement ils n'ont pas eu besoin de batteries de textes qu'on a nous, pour permettre l'émergence de femmes. D'ailleurs, Merkel en étant l'exemple le plus frappant. Alors qu'en France, visiblement, les partis politiques sont très masculins. Et s'il n'y avait pas eu ces lois qui ont été passées...
Ils sont très machos,
très
disons-le.
Macho, bon, voilà, très
masculin, toutes les femmes politiques ont toujours des voilà. histoires racontées, mais qui font dresser les cheveux sur la tête. Oui,
invraisemblable. Donc malheureusement, s'il n'y avait pas eu ces textes, je pense que les femmes auraient eu beaucoup de difficultés, enfin avaient beaucoup de difficultés à accéder aux responsabilités politiques. Donc ça a été vraiment un plus, mais... Aussi, voilà, c'est un esprit différent parce que les partis politiques français sont effectivement, on peut le dire, peut-être très macho. Oui.
Très macho et très... Ils datent un peu, quoi. Il faudrait quand même bousculer, dépoussiérer tout
avis,
cela.
Oui,
c'est hallucinant quand on voit un certain... ces histoires que vont raconter des femmes politiques, qu'elles racontent
tout
partout
à
d'ailleurs,
oui,
qui veut les entendre.
Qui sortent maintenant d'ailleurs, hein. On voit un certain nombre de choses qui finissent par sortir. Je regardais récemment, là, il y a, comment elle s'appelle, Aurélie Filippetti, qui a raconté une histoire avec Cahuzac.
Oui.
Absolument invraisemblable. Enfin bon, des choses qui sont... il lui a sucré des financements parce qu'elle a refusé des avances. Enfin voilà, c'est quand même des choses qui sont ahurissantes. Quoi.
Monsieur Cahuzac, décidément. Monsieur Hollande n'a pas forcément le...
Il semblerait qu'il n'ait pas trop...
Il n'a pas trop la main pour s'entourer. Hein.
Oui, je
il
crois.
A nourri un serpent dans son sein qu'il a doublé sur sa droite et poignardé.
Je pense qu'il y a eu quelques petits soucis, oui, d'entourage.
C'est peut-être la qualité d'un chef que de savoir bien s'entourer et de prendre les meilleurs autour de lui. Alors, vous avez également une activité sociale en dehors de la politique. Vous faites partie de beaucoup de clubs. On ne doit jamais vous voir, ni au cabinet, ni chez vous. Enfin, je ne sais pas,
je fais ça
avec votre mari, que je connais.
Je ne passe pas ma vie dans ces clubs. Je fais partie, j'amène ma pierre à l'édifice. Après, voilà.
Culture et ambition Toulouse. Qu'est-ce que c'est Culture Ambition Toulouse, hein? On sait que vous sponsorisez des jeunes artistes. Et nous avons ici à l'Hostal d'Occitanie une exposition de peinture d'une jeune femme qui a, je crois, inauguré ça il y a 3 semaines à peu près, donc il doit encore rester quelques jours pour ceux qui seraient intéressés de la voir. Ouais. Qu'est-ce que fait Culture et Ambition ?
Alors là aussi, c'est une histoire, en fait. C'est une histoire qui est assez récente, hein, mais c'est né d'une rencontre, en fait, justement dans le cadre de l'Observatoire de la parité. Là. Il y avait un colloque qui avait lieu à Colomiers, et j'ai fait la connaissance d'une jeune étudiante, là, Léna Boukili, avec laquelle on a discuté, on a sympathisé et il se trouve que pour moi j'avais des préoccupations sur les questions éducatives, les questions culturelles, l'autocensure culturelle, le fait qu'on est un pays qui affiche l'égalité dans lequel il y a énormément de discrimination culturelle, d'inégalité. Je me disais qu'est-ce qu'on peut faire.
Et quelles sont les origines, selon vous, de ces inégalités? C'est social, c'est l'argent?
C'est plus social. On s'aperçoit que c'est plus social que financier. C'est-à-dire que moi, je suis frappée toujours de voir qu'on est un pays dans lequel il y a quand même des offres culturelles très, très importantes qui sont souvent accessibles financièrement et de voir que c'est toujours les mêmes personnes qui vont. Hein. Vous allez au théâtre, vous allez...
Oui, mais est-ce c'est que ça ne vient pas de la base et de la formation, autrement dit, de l'éducation nationale? Aujourd'hui, on forme des gens qui sont destinés à produire et à consommer, mais pas forcément, on ne développe pas forcément leur sensibilité artistique, on ne développe pas des qualités de réflexion non plus. Est-ce que ce n'est pas de là qu'il faudrait commencer?
Oui,
on va appeler M. Blanquer pour voir ce qu'il en pense.
C'est certain que ça vient de là, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des biais culturels importants, suivant les milieux sociaux. Hein, il y a des codes que beaucoup n'ont pas, notamment les gens qui sont issus de l'immigration, qui ont problème d'ailleurs en rapport à l'État français, à la France, enfin c'est complexe. Donc toutes ces offres culturelles-là, soit ils s'interdisent d'y aller, soit ils considèrent que ce n'est pas utile. Et puis il y a aussi la question des stéréotypes qui sont quand même, moi je trouve qu'ils perdurent. D'ailleurs on le voit dans les classements, les fameux classements PISA, dans lesquels la France n'est pas très bien classée. Surtout sur ces questions de discrimination, c'est-à-dire que les gens, on les enferme, ils sont quand même enfermés, souvent socialement, géographiquement parlant et culturellement parlant. Et bon, quelqu'un d'un milieu modeste et notamment issu de l'immigration, dès qu'il a quelques petits problèmes à l'école, tout de suite on va le mettre sur une voie de garage qu'on ne ferait pas pour quelqu'un qui est dans un milieu, je dirais, plus favorisé. Donc tout ça reste vraiment très prégnant. Et moi j'avais des interrogations là-dessus. Et quand j'ai rencontré les Naboukis, c'était juste aussi après les attentats là, de 2015. Et donc on a discuté là-dessus. Alors elle a un parcours, elle est née en banlieue parisienne. Après, elle est venue à Toulouse, etc. Donc elle est franco-marocaine. Donc c'était intéressant de confronter moi à les idées que je pouvais avoir et elles sont vécues. Et on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose là-dessus. Et aussi comment répondre à ce qui s'était passé à notre petite échelle, bien sûr, ce qui s'était passé après les attentats. C'est-à-dire là, moi, j'ai découvert aussi une détestation profonde d'une partie des gens issus de l'immigration à l'égard de la France. Hein. Des gens qui sont traversés par du complotisme de droite, d'extrême droite, et également islamistes et d'extrême gauche. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui montraient des vidéos, enfin des choses, c'est-à-dire une manipulation intellectuelle. C'est-à-dire les idées, je ne vais même pas parler d'idées, les propos d'Abeslam, je ne sais pas comment il s'appelle.
Nous pensons même. Oui.
Voilà, bon, qui était extrêmement répandu dans les quartiers populaires. Alors là, moi, ça m'a fait un choc. Donc j'en ai parlé avec cette jeune fille et c'est vrai que du coup, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose.
Est-ce que ce n'est pas le résultat d'une politique? Parce que ces quartiers sont quand même ostracisés. Quand on y va, moi, il m'arrive d'y aller. Nous avons ici d'ailleurs une émission qui s'appelle « Mon beau quartier ». Qui est faite par des gens des quartiers, qui, eux, ont plus les codes et savent mieux ce qui intéresse leurs concitoyens. Est-ce qu'on n'a pas tout fait pour les mettre un peu en marge? On a déversé beaucoup d'argent, on a acheté des votes, on a fait des clientèles à la romaine, je ne citerai pas de nom, même au Parti Socialiste, même pour être premier magistrat de cette bonne ville. Vous voyez vers où se porte mon regard. On a cherché ce qui se passe aujourd'hui, on a créé les conditions.
Alors bon, on ne peut pas dire ça, parce que le terrorisme, il est partout hein, dans le monde, il n'a pas eu lieu qu'en France.
Sans aller jusqu'au terrorisme, mais il est vrai quand même que dans ces quartiers, les gens souffrent et les gens sont ostracisés. Moi j'ai reçu ici des gens des quartiers, j'ai reçu des jeunes des quartiers, ils étaient, je ne sais plus, une 10-12 sur ce plateau et on a parlé, ils nous ont conté des histoires absolument hallucinantes. Non, mais ça, là aussi, moi je suis souvent halluciné, que ce soit homme, femme ou quartier ou autre,
mais
à l'époque où on est, c'est vraiment entendre encore ce genre de réflexion, de problème, on se demande à quoi ça a servi que l'on ait fait une révolution, que nous soyons le pays des Lumières.
Non, mais je suis d'accord, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ostracisation, et puis c'est-à-dire que je pense qu'on a, effectivement, on a fait des rénovations. Mais on a enfermé les gens, on a continué à enfermer. C'est-à-dire que, moi je pense qu'il y a un truc qui a été assez néfaste, c'est toute la politique des grands frères, par exemple. C'est-à-dire qu'on a finalement figé ces populations dans cette forme de patriarcat qui finalement est néfaste, notamment pour les filles. C'est-à-dire en instaurant les grands frères comme référents, on allait dans ce sens de au lieu d'aller dans l'émancipation, on figeait les choses. Et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'on a figé...
Il aurait peut-être même mieux valu faire les grandes sœurs, parce qu'on sait que dans ces quartiers, quand on veut créer quelque chose, quand on veut qu'il y ait un mouvement qui soit structuré et suivi, il vaut mieux travailler avec des femmes qu'avec des hommes.
Tout à fait. Et finalement, on a assigné les gens en résidence, mais mentale en fait. C'est-à-dire qu'au lieu, et c'est pour ça que c'est assez... C'est pervers, finalement, et ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... Alors, c'est pas forcément du racisme, mais c'est quelque part sous-jacent le fait de dire... une forme d'essentialisation de ces populations. De dire que, de toute façon, bon, l'air de rien, voilà, quoi. Elles sont pas capables, elles ont une culture qui ne leur permettra pas de s'assimiler véritablement. Donc, dans ce cas-là, laissons-les un petit peu...
De fait, on a quand même... perdu 3 ou 4 générations, parce que ça remonte à un moment, depuis 62, quand même, on a été très très maladroit pour, et c'est un euphémisme, bien évidemment.
Oui, je pense qu'il y a tous ces phénomènes-là. Alors bon, après, est-ce que je pense que le phénomène du terrorisme, il est lié à, il est géopolitique, il n'est pas spécialement, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a, moi, que j'ai découvert à ce moment-là, c'est une véritable détestation pour beaucoup de la France. Alors des fois, c'est pas tellement bien argumenté ou défini, mais je pense qu'il y a tout ça, il y a tous ces impensés. En fait, je pense que la France est un pays où il y a beaucoup d'impensés sur lesquels on ne veut pas, c'est le cas de dire, se pencher. On ne veut pas se pencher sur les impensés.
On le voit d'ailleurs dans certains matchs de foot où on siffle l'hymne français. Oui. Vous le pensez aussi.
Mais parce que
vous finirez par rejoindre Monsieur Zemmour, je vous vois venir.
Non, pas du tout. Oh là là, mon Dieu, quel horreur. Non. Mais je pense qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une promesse républicaine ou une promesse. La France est un État qui est assez politique, qui affirme des principes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais les principes souvent ne sont pas tenus. Donc les gens nous renvoient cette image-là.
Allez, je vais vous proposer d'écouter quelque chose, et ce serait bien aussi que dans ces quartiers-là, on les ouvre à ce type de culture. C'est de l'opéra, ça s'appelle les saltimbanques. Le titre du morceau, c'est l'amour, vous voyez, donc il nous faut de l'amour aujourd'hui. On écoute, ça a été joué quand même en 1899, créé à la Gaîté Lyrique à Paris, qui était alors dirigé par Louis Desbruyères. Nous écoutons « C'est l'amour ». Voilà, les Saltimbanques, un opéra comique en trois actes et quatre tableaux, comme on disait, de Louis Gann et sur un livret de Maurice Ordonneau. Donc on a fait un grand bond dans le passé, 1899, mais vous voyez, Hein, ça n'a pas pris une ride, cette affaire.
Tout à fait.
Voilà, Florence Ginesti, notre invitée du jour. Alors, Florence Ginesti, bon, je sais que vous êtes moyennement sportive, un peu de vélo peut-être.
Voilà, hein, oui.
Voilà, mais j'espère pas dans Toulouse, ou alors avec un casque et le gilet. Parce
non,
que...
je n'ai pas de casque, pas de gilet. Je circule avec un très vieux vélo.
Vous avez tort, voilà. Parce qu'ici, c'est quand même... il faut être courageux pour faire du vélo, hein, ou alors un peu inconscient.
Voilà, c'est ça, c'est peut-être mon cas.
Une œuvre d'art qui vous a marqué, Florence?
Alors, j'avais mis dans votre questionnaire, là...
Il n'est pas celui de Proust, mais...
Non, c'était qu'il y a d'ailleurs, c'est simple. Un exercice difficile, ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas simple. Plutôt qu'une œuvre d'art, j'avais mis l'endroit qui m'a vraiment marqué, que j'ai vu il y a quelques années, c'est le musée juif de Berlin, qui est un lieu... Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé.
Mais non, je n'y suis jamais allé.
Qui est un lieu, qui a un musée vraiment assez extraordinaire, enfin extraordinaire, qui est dur, enfin, qui permet de mesurer, je dirais physiquement, ce qu'a été donc, la période de l'Holocauste. Mais il n'y a pas que ça, c'est un musée qui parle aussi de la présence juive en Allemagne, qui a été très, très longue et très ancienne, qui parle de la vie donc de ce peuple juif, hein, des Ashkénazes, donc de cette langue perdue. Moi, c'est quelque chose que je trouve très, très terrifiant, d'ailleurs, la perte de la langue de ces gens qui sont partis dans les camps, quoi. Et ils ont perdu la langue, le yiddish, quoi, c'est terrible. Et c'est-à-dire que ça a été fait par l'architecte Libeskin, oui, celui qui, au passage, est censé faire la tour d'Occitanie à Toulouse.
Oui, on n'est pas sûr qu'on la voit un jour.
Je ne sais pas si on la verra. Et donc, c'est un bâtiment qui est...
D'ailleurs, tiens, puisque vous l'avez évoqué, qu'est-ce que vous en pensez?
En soi, je trouve que cette ville manque de ce qu'on appelle les gestes architecturaux. Donc, je trouve que ça serait bien qu'il y en ait.
Il y en a, mais ce sont plutôt des gestes obscènes.
Voilà, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça serait bien qu'une ville comme Toulouse, à un moment donné, un lieu... Alors, bah, bon, moi, je préférerais que ce soit un musée, hein, qu'une tour d'habitation. Mais bon, si c'était un grand architecte, je ne sais pas. J'ai vu qu'à Barcelone, ils ont la tour Abgar, là, qui est un immeuble de bureaux et qui est une belle...
Et qui s'inscrit parfaitement dans le paysage barcelonais. Un peu phallique, mais quand même...
Oui, mais qui est très intéressant. Enfin,
techniquement, c'est remarquable.
Oui, oui, oui. Donc, pourquoi pas à Toulouse? Enfin, bon, après, là, je n'ai pas un avis très tranché sur la question. Mais donc, pour dire que ce lieu est un lieu qui est vraiment très, très émouvant, parce qu'il travaille autour de l'exil. Donc de la Shoah, et il y a ce qu'on appelle, enfin en plus il est construit de manière comme un labyrinthe un peu, c'est-à-dire quand on arrive, en fait on descend, et il y a toute la partie donc muséographique est en dessous, et à un moment donné on arrive dans un grand couloir qui amène à ce qu'on appelle la tour de l'Holocauste, une salle avec une espèce de, comme une tour en fait, dans laquelle on rentre seul. Elle est toute noire et c'est une manière de formaliser ce que pouvaient être les camps. Et surtout, ce qu'il y a de très émouvant et de très poignant, c'est qu'en arrivant vers cette tour, il y a donc exposé la vie de tous ces gens qui sont partis. Et c'est vrai que quand on voit des films sur la Shoah, on voit des trains avec des gens qui partent, mais on n'a pas de visage. Tandis que là, ils ont reconstitué en fait la vie de tout un tas de personnes. Avec leur vie de tous les jours, enfin, et on voit les enfants, les parents, etc. Et on arrive à ce lieu-là de la tour de l'Holocauste, et ça a quelque chose de profondément poignant. Et après, il y a ce qu'ils appellent la partie sur l'exil, en fait, avec des espèces de colonnes un peu penchées sur lesquelles en haut il y a un rameau d'olivier. Et en fait, c'est un lieu qui est fermé, c'est-à-dire c'est l'exil, mais l'exil, qu'est-ce que c'est en fait finalement? C'est jamais forcément choisi. Et je trouve que ce musée, bon, j'y repensais quand vous m'avez demandé de choisir quelque chose, je me suis dit qu'en fait, il parlait du monde juif, mais il est d'une brûlante actualité, parce que l'exil, on y est confronté actuellement, hein, c'est-à-dire les murailles, les murs, comment on sort de l'exil et pourquoi on s'exile. Et aussi, une deuxième chose, c'est cette histoire de perte, là, donc la perte de la langue, la perte de ces populations qui sont parties dans les fumées de l'histoire. Et je pensais aussi...
C'est une belle formule.
Non, non, mais je disais, ce que je voulais dire, c'est que cette perte, On la retrouve aussi, je pensais par exemple avec les problèmes climatiques, tout un tas de petites îles par exemple qui sont en train maintenant, avec des populations qui sont en train d'être obligées de partir parce que le...
Alors, il y en aura plus que des îles, hein. Par exemple, si vous prenez Miami, vous reprenez une ville que tout le monde connaît, ben, il commence à imaginer ce que serait la vie en hauteur, parce qu'il va être obligé ou de surélever ou d'évacuer. Mais ça, c'est un autre problème qu'on va réserver pour l'émission Arcania. Et si vous me lancez là-dessus, on est parti pour une heure de mieux. Voilà ma dilection pour ce type de problématique.
Je connais votre intérêt pour ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est des lieux qui sont symboliques, en fait, de...
Un moment particulier qui vous a marqué, un voyage, si j'ai bien compris, en Andalousie?
Oui, alors c'est ce que je vous avais dit, c'est une personne qui est très présente ici,
oui,
c'est un voyage culturel.
Qui était là il y a demi-heure dans le studio.
Voilà, avec Alem Sur Garcia, que je ne connaissais pas à l'époque, c'est un voyage qu'on avait fait par l'intermédiaire d'amis qui le connaissaient en Andalousie, alors, je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'années. Et d'abord, découverte d'Alem, qui est quelqu'un de très intéressant aussi, qui est quelqu'un...
Ah bah c'est un puits culturel.
Mais qui a mille vies, c'est-à-dire qui a été, qui a fait une école de commerce, qui a vécu à Paris pendant un certain temps, qui a été guide touristique, enfin qui travaille dans le tourisme, puis après qui est...
Nous l'avons reçu dans cette émission, voilà. Donc on n'a même pas épuisé d'ailleurs le tiers de ce qu'il a fait, ce qu'il avait à dire, mais il y aura une deuxième... partie, j'imagine.
Mais ce qui m'avait intéressé, moi, c'est bien sûr la découverte. Enfin, moi, je connaissais l'Andalousie, mais toute cette histoire dont il nous a parlé. Mais c'est surtout ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les liens qu'il tisse, lui, enfin, c'est pas lui qui les a inventés, entre cette période-là et la culture et la langue occitane, avec notamment un regard sur Toulouse, sur Toulouse l'orientale. Avec les liens qu'il y a pu y avoir historiques avec justement ce monde-là, ce monde arabo-andalou. Et je trouve que c'est très intéressant. Et puis lui, il est très occitaniste. Enfin, il travaillait sur la langue, sur les idées de convivence, et puis sur un regard de la France qui me parle assez, c'est-à-dire un regard décalé. C'est-à-dire un regard, le regard des périphéries qui sont très peu prises en compte dans ce pays. Qui est vraiment un exemple absolument incroyable de centralisme. Et c'est vrai que le regard d'Alem est décentré et donne à voir les choses sur un aspect que je trouve extrêmement intéressant.
Alors, nous sommes presque au bout de l'heure que je voulais vous consacrer. Et traditionnellement, dans mes émissions, on finit toujours l'heure par parler de livres, donc séquences littéraires. Vous avez choisi un bouquin de Simone de Beauvoir. Féministe, Florence ?
Féministe, oui. Enfin, suivant un petit peu l'esprit de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire se rendre compte... elle l'a écrit à une époque particulière. Mais c'est vrai que ce sont des livres qui m'ont parlé, parce que moi, je suis... Comme je vous l'ai dit en début, je suis issue d'une famille... c'est pas une famille qui avait fait mes 68, hein, une famille conservatrice... de droite, et c'est vrai que ce qu'elle décrit dans Mémoire d'une jeune fille rangée, moi ce sont des livres que j'ai lus quand j'étais au lycée, c'est vrai que c'est une forme de révélation à la fois sur qu'est-ce que c'est qu'être femme dans un monde d'hommes, dans une société ou une conception du monde très traditionnaliste. Donc c'est toutes ces réflexions qu'elle a menées, ensuite dans le deuxième sexe, c'est-à-dire avec des études beaucoup plus poussées, à partir de sa propre expérience, comment de sa propre expérience finalement elle a tiré une réflexion.
Est-ce que c'est par un peu de date? Alors moi j'en ai fait une lecture récente, puisque c'était durant le premier confinement, où je me suis plongé dans Simone de Beauvoir. Est-ce que c'est pas un peu daté quand même, parce qu'elle décrit...
Alors justement, j'avais cette impression, moi, parce que ça fait très longtemps, pour tout vous dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu.
Non, vous avez dit que c'était au lycée, c'était
non,
hier.
Non, mais quand vous m'avez dit qu'est-ce qui m'a marqué, c'est vrai que ça m'a marqué à l'époque. Mais j'en ai discuté justement pour venir, je reboucle avec l'association là, dont je m'occupe, avec des jeunes, là, notamment avec Léna Boukili. En fait, je me suis rendu compte que c'est des livres, notamment en mémoire d'une fille, qu'on continue à lire. Et qui inspire des jeunes femmes comme ça. Parce que finalement, ce côté émancipateur, beaucoup de jeunes filles issues de l'immigration qui sont confrontées à une forme de patriarcat culturel, etc., ça reste d'actualité. Alors peut-être l'écriture, moi je ne l'ai pas relue, l'écriture est peut-être datée, ça je ne saurais pas dire, mais l'esprit qu'il y a dedans, on s'aperçoit, est toujours d'actualité. Et avec ce que j'aimais bien, moi, chez Beauvoir, c'est-à-dire c'est la conception du féminisme qui n'est pas de la victimisation. C'est le féminisme, c'est-à-dire que c'est savoir quels sont les freins qu'il peut y avoir pour une femme donc toute sa notion de machisme, de patriarcat, etc., mais ne pas s'enfermer dans un rôle de victime, c'est-à-dire au contraire, et combattre les propres stéréotypes que les femmes véhiculent sur elles-mêmes et dans lesquels elles s'enferment souvent, parfois, volontairement.
Alors, relisez Simone de Beauvoir, de toute façon, ce sont des textes magnifiques, Deuxième sexe et Mémoire d'une jeune fille rangée. Deuxième sexe, il y a 2 tomes quand même, hein, il faut avoir du souffle.
C'est un peu long, ouais.
Mais bon, ça le mérite. Alors moi, je vais vous parler de notre livre et d'un livre écrit par des journalistes qui sont l'honneur de la profession. Mais je crois que vous lisez ce livre actuellement, Florent Ginesti, donc vous pouvez prendre le relais. Ce sont des journalistes qui prennent encore le temps de mener des enquêtes de longue haleine et de le faire avec professionnalisme et talent. Donc je veux évoquer Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui viennent de sortir chez Fayard un livre qui est intitulé « Le traître et le néant » dont j'ai déjà parlé à cette antenne, mais je ne m'en lasse pas. C'est un livre renseigné, factuel, bien construit, qui se lit, enfin ça a été mon cas, mais je crois que je ne suis pas le seul, qui se lit d'une seule traite. Hein. C'est un peu comme un polar finalement. Alors si vous voulez savoir de quoi M. Macron est le nom, si vous voulez nourrir votre réflexion en vue des prochaines élections, eh bien, je vous recommande fortement de lire « Le traître et le néant » chez Fayard. C'est assez confondant et on n'en ressort pas tout à fait indemne. C'est votre avis, Florence, oui, vous qui le lisez ?
Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas fini, hein, comme vous, je l'ai commencé. C'est vrai que c'est une étude très documentée sur l'accession au pouvoir de Macron.
Oui, et puis surtout sur le personnage, sur ses ressorts intérieurs et sur peut-être l'intérêt qu'il peut porter au pays.
Oui, il y a tout ça, mais en même temps, je pense que ça arrive...
Contrepoint, on voit ce que M. Oui. Hollande aussi, donc, oui. Parce qu'on parle de tout le personnel politique,
tout le monde,
et tout le monde est convoqué pour donner son avis.
Oui, tout à fait.
Certains l'ont refusé, d'autres ont joué le jeu. Ce n'est pas inintéressant, c'est un euphémisme là aussi.
Oui, tout à fait, ça démontre le mécanisme, mais en même temps, c'est vrai que je pense que ça en dit beaucoup sur le fonctionnement de
nos institutions.
Qui, à mon sens, enfin moi je suis extrêmement hostile aux institutions de la Ve République, profondément hostile. Moi je regrette que Mitterrand se soit si bien coulé dedans, et moi je reste sur son bouquin hein, dans lequel il critiquait... La Ve République, et je pense qu'en fait, ce livre-là sur Macron...
L'abeille et l'architecte, peut-être, non ?
Non, le coup d'État permanent.
Ah, le coup d'État permanent, oui, exact.
Et je pense que ce livre est un peu aussi le reflet de ce qui ne marche pas, quoi.
Merci, Florent Ginesti, de nous avoir consacré 1 heure dans ce programme, on l'a vu, extrêmement chargé.
Merci à vous.
C'était Cap à Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiffaine Nemen, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et tous les autres podcasts, bien sûr, sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Adéo.